Chapitre 2. Évidemment, mais il me semble que le ressort de ma volonté est brisé. Tu es courageuse, toi. Il faut que tu le sois, surtout aux heures d'épreuve. Les jaloux seraient bien trop contents. C'est vrai. Une flamme passa dans les yeux noirs de la Griffoule. Elle lui caressa les mains à son tour pendant un long silence, innocents l'un et l'autre que hantait la menace de la pire infortune. Et cette femme, qui avait épousé sans effusion pour se dévouer à ses vieux parents, pour obtenir une situation indépendante, s'éprenait, par pitié, par un élan de générosité encore, de cet homme petit, laid, noirot, dont la tête un peu folle s'illuminait néanmoins de rares vertus de grandeur et de bonté humaine. « Alors, dit-elle, tu ne vois personne qui soit susceptible de nous aider ?»«
Personne !»
Ils se turent de nouveau, immobiles, les yeux dans les yeux. Soudain, Hélène se frappa le front et, dans un rire de gaieté jeune, elle s'écria. « Il y a quelqu'un! Comment n'y ai-je pas songé plus tôt ?»«
Qui ?»«
Ma nounou Galissarde !» Il resta quoi un moment, émerveillé par la vision d'un prodige. Puis le doute survint. « Mais, Hélène, il faut beaucoup d'argent. Ne te fais-tu pas des illusions, comme moi naguère ?»«
Non, ma nounou ne sait rien me refuser. En tout cas, nous devons essayer, n'est-ce pas ? Lui écrirai-je ? » ?»«
Vaut mieux pas. Une lettre, ce serait confus pour elle. J'irai donc la trouver dans sa montagne. » »« Par ce temps d'hiver, et moi, tu me laisseras seule ?» Au fait, il est préférable que je ne t'accompagne pas parce qu'on s'imaginerait ici que je fuis devant le danger. Et puis, tu ne resteras pas longtemps à Cornu.
Non, je partirai demain.
Et affectant une fois de plus une gaieté légère, Hélène descendit au magasin. La Griffoule, émue de surprise, heureux, ne bougea plus d'un moment sur son tabouret. Son Hélène, si sage, trop calme, qui ne savait jamais répondre à ses caresses, voilà qu'elle devenait charmante, d'entrain et de bonne grâce. L'adversité avait donc quelque chose d'agréable, puisqu'elle lui apportait l'amour de sa femme. Et maintenant, c'était lui qui considérait sans illusion, sans goût, la vie présente. Il reprit son pinceau, sa palette, s'efforça naïvement de s'attacher à une œuvre. Impossible, le souci de l'avenir l'obsédait. Il n'avait plus le courage de se sentir seul dans le silence. De guerre lasse, il descendit au magasin pour se retrouver auprès d'Hélène dans l'atmosphère de son âme. Le magasin resplendissait de richesses et de parures qui auraient dû, comme les premiers jours, solliciter de nombreux clients. De toute la matinée, il n'en vint qu'un seul et pauvre. L'après-midi, point du tout. La calomnie poursuivait son chemin dans la ville et dans les campagnes. Mais est-ce que Fornet, lui aussi, n'était pas atteint dans sa prospérité ? Car la Griffoule se disait, par manière de consolation, que la débâcle de Gauzy arrêtait chez tout le monde la moindre velléité de dépense. La caissière, la vendeuse, semblait également désorientée, la mine inquiète. La Griffoule essayait parfois de plaisanter avec elle, en vain. La sincérité n'y était plus. La caissière, un moment, osa proposer
« Si nous faisions sonner du clairon par la ville ?»«
Non, pas encore. On croirait que c'est de ma part une bravade. »«
Et des prospectus dans les villages ?»«
Plus tard, permettons au temps de dissiper la mauvaise humeur d'une clientèle devenue trop prudente. » On gardait le silence, on bâillait d'ennui. Alors on ne tardait guère à entendre la voix ardente de Vignal qui, sur son échelle, entonnait une chansonnette patoise ou qui racontait une histoire à des passants. Le soir, après souper, les La Griffoule s'en furent vite, en catimini, à la rue Saint-Jean, informer maman La Griffoule de leurs intentions d'un voyage intéressé à Cornu. La maman La Griffoule, qui avait un peu l'imagination romanesque de son fils, accueillit avec faveur les espérances d'Hélène, qui était toujours si sérieuse. Déjà, peut-être, entrevit-elle la possibilité de réparer, au moins en partie, son désastre à la banque. Chez les Charmasson, quel accueil décourageant! Toujours calme, dans la cuisine faiblement éclairée, ils écoutèrent d'un air maussade le discours de leur gendre. Quand il eut copieusement parlé, M. Charmasson se coiffa de sa calotte de velours, autorisa sa femme à verser le café dans les tasses, enfin ricana. « Oui, Isidore, tu lâcherais le petit Paris.
C'est une désertion. »
Comment voulez-vous, répliqua la Griffoul, tous ces mauvais bruits sur mon compte nous ruineront si je n'organise pas la résistance.
Les autres boutiquiers vendent-ils plus que le Petit Paris?
Ma foi, ils sont tous malades.
Un jour ou l'autre, la vie reprendra forcément. La faillite de la banque, qui donc y gagnerait? Et puis, pour vos échéances, est-ce que les fournisseurs ne vous accorderont pas des délais?
J'ai peur que non.
S'ils sont trop sévères, à quoi servira l'argent de Galissard? Il sera tout de suite noyé comme un verre d'eau dans la rivière.
Pardon, beau-père, il nous permettra d'attendre les beaux jours. En tout cas, essayons quelque chose.
Monsieur Charmasson ôta ses lunettes, se frotta les yeux en soupirant.
Je crois qu'il n'y a pas moyen, ce soir encore, de modifier les idées d'Isidore. Ce qu'il y a de malheureux, c'est qu'Hélène souffre.
Mon mari souffre autant que moi, dit Hélène avec assurance. Il n'est pas juste de l'incriminer à tout propos, car Isidore, mon père, n'a que les meilleurs sentiments.
À l'époque d'aujourd'hui, ma fille, le sentiment n'est rien.
Allons, tant pis, agissez à votre gré, mes enfants, c'est l'heure de se coucher. Nous te souhaitons bon voyage, Hélène, que Dieu t'assiste.
Il embrassa Hélène avec effusion. Puis sa chère Marguerite, qui l'imitait en toutes choses, ne put réprimer un petit sanglot en faisant ses adieux. M. Charmasson, ayant ouvert la porte, frappa sur l'épaule de la Griffoul.
« Quant à toi, Isidore, dès que tu auras reçu des nouvelles, tu nous les communiqueras. »«
Naturellement. »
La Griffoul, qui était déjà dans la ruelle, glissa son bras sous celui d'Hélène et ils partirent d'un pas rapide, serrés l'un contre l'autre avec amour, dans la nuit froide.